Le groove metal, aussi appelé le néo-trash, le post-trash et le half-trash, est un genre dérivé de trash metal apparu dans les années 90. C'est une sorte de fusion entre le trash metal, le blues et le death metal. Et je pense qu'on va vous en faire jouer aujourd'hui. Vous écoutez dans le champ lexical et cette semaine le mot c'est metal. Bienvenue dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Cette semaine encore, on vous présente chroniques, reportages, personnages, vox pop et chansons en rapport avec notre mot. Et on débute cette émission avec un bref historique du métal, raconté par Yannick Marcil, l'économiste, qui profite de l'occasion pour nous raconter l'histoire de la Terre et de l'humanité.
Au début, la Terre était une grosse sphère de métal en fusion. Notre planète primordiale était ardente et furieuse comme les enfers. Métal incandescent et embrasé, coulant et flasque. Le temps a passé. Les ardeurs des enfers se sont calmées. Le métal s'est solidifié. En partie. Le cœur de la Terre bat toujours de cet incessant bouillonnement métallique. Et les hommes sont apparus. Ils ont découvert le métal caché dans la pierre dure. Ils ont cherché à le maîtriser, à le manier, à le rendre malléable. Ce fut l'âge des métaux, l'âge du cuivre, puis l'âge du bronze, puis l'âge du fer. À l'intérieur de l'homme, il y avait ce désir enfoui de retrouver l'ère primordiale, celle de la terre en fusion, de maîtriser le chaos bouillonnant du métal. Mais avant ces âges métalliques, il y eut l'âge d'or. L'or, le roi des métaux. Ce caillou jaunâtre et brillant, un homme de l'âge de pierre l'a ramassé. Il l'a martelé comme il le faisait de n'importe quelle pierre. Surprise, le caillou ne vola pas en éclats. Il s'aplatit, devint mou, il forme un disque qui brille comme le soleil. Il est le soleil. L'âge d'or, tant béni, tant doux, chaud et moelleux comme l'or, comme la chaleur du soleil. Les Égyptiens prétendaient que l'or était la chair du soleil, vois-tu. L'âge d'or, bien avant celui du bronze ou du fer, métaux durs, bruyants, froids. Métaux qui deviendraient ponts et fusils, rails et machines. Maîtriser le fer, c'est fabriquer le fer à cheval, le pont de fer, l'armure de fer, le chemin de fer, la chaîne de fer. Être fort comme le fer et avoir une discipline de fer. La discipline du labeur à la sueur de son front. Celle du forgeron et de l'ouvrier dans l'usine assourdissante, du hurlement de la locomotive sur les rails, des engrenages monstrueux de la machine, la furie du métal en fusion dans les fours industriels. L'âge du métal, c'est l'âge industriel, tu vois. C'est surtout l'âge de la violence du bruit, du choc brutal des pièces, des barres, des vis, des rivets. Alors que l'âge d'or, c'est la douceur, c'est la chaleur, c'est brillant comme ton cœur d'or. Sous sa douceur soleil se cache pourtant la furie des hommes, leur convoitise comme la violence de leur pouvoir. Tu veux rouler sur l'or, alors que tu sais que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais pour tout l'or du monde, tu ne voudrais sacrifier ta liberté, me dis-tu. L'homme est né libre, et partout il est dans les fers, pourtant. Esclave du métal, esclave du roi des métaux. Tout l'or du monde. Tu sais ce que cela représente? Un paquebot. Tout l'or du monde tient dans un simple paquebot, pour vrai. Tout le métal royal qui se déplace sur les sept mers du monde, sous lesquelles bouillonnent encore furieusement les métaux primordiaux. Tu sais, au début, la Terre était une grosse sphère de métal en fusion. À la fin, elle sera une grosse sphère métallique, dure, grise et froide, une Terre vidée de ses habitants, après l'histoire, après les hommes, errant dans le silence éternel des espaces infinis.
J'ai perdu le reste de ma tête confondue. La guerre avec la fête pour être avec toi, contre toi. Je t'attaque et je veux que tu m'aimes, je détraque. Il me surprend moi-même à glisser comme une ombre dans ton monde.
On a tendance à croire que le métal est froid et impersonnel. Mais Émile Zola, dans son roman L'Assommoir, décrit une scène de séduction des plus sensuelles autour du métal et d'une forgerie. Gervaise, personnage principal du roman, se rend à la forge où travaillent son fils Étienne et Gouget, un vieux KKL. Gervaise reconnut Gouget devant la forge avec sa belle barbe jaune. Étienne tirait le soufflet. Deux autres ouvriers étaient là. Elle ne vit que Gouget. Elle s'avança, se posa devant lui. « Tiens, Madame Gervaise !» s'écria-t-il, la face épanouie. « Quelle bonne surprise ! Vous permettez, Madame Gervaise ? J'ai quelque chose à terminer. Mais restez là, n'est-ce pas ? Vous ne gênez personne. » Elle resta. Étienne s'était pendu de nouveau au soufflet. La forge flambait avec des fusées d'étincelles. D'autant plus que le petit, pour montrer sa poigne à sa mère, déchaînait une haleine énorme d'ouragan. Gouget, debout, surveillant une barre de fer qui chauffait, attendait, les pinces à la main. La grande clarté l'éclairait violemment, sans une ombre. sa chemise, roulée aux manches, ouverte au col, découvrait ses bras nus, sa poitrine nue, une peau rose de fille où frisaient des poils blonds, et la tête, un peu basse entre ses grosses épaules bossues de muscles, la face attentive, avec ses yeux pâles fixés sur la flamme, sans un clignement. Il semblait un colosse au repos, tranquille dans sa force. L'enclume avait une sonnerie argentine. Lui, sans une goutte de sueur, très à l'aise, tapait d'un air bonhomme, sans paraître faire plus d'efforts que les soirs où il découpait des images, chez lui. Comme il lui demandait si le poignet ne s'engourdissait pas à la fin de la journée, il eut un bon rire. Est-ce qu'elle le croyait une demoiselle? Son poignet en avait vu de grise depuis 15 ans. Il était devenu en fer, tant il s'était frotté aux outils. Et Gervaise se sentait prise dans le branlement de la forge, contente, ne s'en allant pas. Elle faisait un large détour pour se rapprocher d'Étienne sans risquer d'avoir les mains brûlées, lorsqu'elle vit l'ouvrier sale et barbu auquel elle s'était adressée dans la cour. Alors il faut comprendre ici que Gouget lance un défi à un autre forgeron un peu saoul. Les deux doivent forger un type particulier de boulon, une tâche très difficile. Avant de commencer, Gouget jeta à la blanchisseuse un regard plein de tendresse confiante. Puis, il ne se pressa pas. Il prit sa distance, lança le marteau de haut, à grande volée régulière. Il avait le jeu classique, correct, balancé et souple. Fifine, dans ses deux mains, ne dansait pas dans un chahut de bastringue, les guibolles emportées par-dessus les jupes. Elle s'enlevait, retombait en cadence, comme une dame noble, l'air sérieux, conduisant quelques menuets anciens. Les talons de Fifine tapaient la mesure, gravement, et ils s'enfonçaient, dans le fer rouge, sur la tête du boulon, avec une science réfléchie, d'abord écrasant le métal au milieu, puis le modelant, pour une série de coups d'une précision rythmée. Ses cheveux courts, frisant sur son bras, sa belle barbe jaune, aux anneaux tombants, s'allumait, lui éclairait toute la figure de leur fil d'or, une vraie figure d'or, sans mentir. Avec ça, un cou pareil à une colonne, blanc comme un cou d'enfant. Une poitrine, vaste, large à y coucher une femme en travers. Des épaules et des bras sculptés qui paraissaient copiés sur ceux d'un géant dans un musée. Quand il prenait son élan, on voyait ses muscles se gonfler, des montagnes de chair roulant et durcissant sous la peau. Ses épaules, sa poitrine, son cou enflaient. Il faisait de la clarté autour de lui. Il devenait beau, tout puissant, comme un dieu. Il comptait 21, 22, 23. Fifine continuait tranquillement ses révérences de grande dame. Quel poseur, murmura en ricanant Bec Salé, dit Bec Sans Soif. Et Gervaise, en face de la gueule d'or, regardait avec un sourire attendri. Mon Dieu, que les hommes étaient bêtes! Est-ce que ces deux-là ne tapaient pas sur leur boulon pour lui faire la cour? Oh, elle comprenait bien, ils se la disputaient à coups de marteau. Ils étaient comme deux grands coqs rouges qui font les gaillards devant une petite poule blanche. Faut-il avoir des inventions, n'est-ce pas? Le cœur a tout de même, parfois, des façons drôles de se déclarer. Oui, c'était pour elle, tout se faire écraser. C'était pour elle, cette forge en branle, flambante d'un incendie, emplie d'un pétillement d'étincelles vives. Il lui forgeait là un amour. Il se la disputait, à qui forgeait le mieux. Et, vrai, cela lui faisait plaisir au fond. Car, enfin, les femmes aiment les compliments. Les coups de marteau de la gueule d'or, surtout, lui répondaient dans le cœur. Ils y sonnaient, comme sur l'enclume, une musique claire qui accompagnait les gros battements de son sang. Ça semble une bêtise, mais elle sentait qu'on lui enfonçait quelque chose là, quelque chose de solide, un peu du fer du boulon. Au crépuscule, avant d'entrer, elle avait eu, le long des trottoirs humides, un désir vague, un besoin de manger un morceau. Et maintenant, elle se trouvait satisfaite, comme si les coups de marteau de la gueule d'or l'avaient nourrie. Oh, elle ne doutait pas de sa victoire. C'était à lui qu'elle appartiendrait. Bec Salé, dit Bec Soif, était trop laid, dans sa cotte et son bourgeon sale, sautant d'un air de singe échappé. Et elle attendait, très rouge, heureuse dans la grosse chaleur pourtant, prenant une jouissance à être secouée des pieds à la tête par les dernières volées de Fifine. Gouget comptait toujours. « Et 28 !» s'écria-t-il enfin, en posant le marteau à terre. « C'est fait. Vous pouvez voir. » La tête du boulon est polie, nette, sans une bavure. Un vrai travail de bijouterie. Une rondeur de bille faite au moule. Les ouvriers la regardèrent en hochant le menton. Il n'y avait pas à dire. C'était à se mettre à genoux devant. Gervaise s'était serrée contre Gouget, comme pour mieux voir. La forge de nouveau s'emplissait d'ombre, d'un coucher d'astres rouges qui tombait, d'un coup, à une grande nuit. Et le forgeron et la blanchisseuse éprouvaient une douceur en sentant cette nuit les envelopper. Dans son hangar, noir de suie et de limaille, où des odeurs de vieux fer montaient. Il ne se serait pas cru plus seul dans le bois de Vincennes s'il s'était donné rendez-vous au fond d'un trou d'herbe. Il lui prit la main, comme s'il l'avait conquise. Puis, dehors, ils n'échangèrent pas un mot. Il ne trouva rien. Il dit seulement qu'elle aurait pu amener Étienne s'il n'y avait pas eu encore une demi-heure de travail. Elle s'en alla, enfin, quand il la rappela, cherchant à la garder quelques minutes de plus. Extrait tiré du roman « L'Assommoir » d'Émile Zola.
Hey Nadine!
Tu sais, on dit qu'à peu près tous les styles de musique viennent du jazz, mais t'as-tu réellement déjà trouvé une corrélation entre le jazz puis le métal?
Ben, j'ai déjà lu quelque part, je me souviens plus où, que la trompette de Miles Davis était supposément en métal.
Non, je parle de la musique métal.
Ah ben, j'ai lu aussi que des fois, quand Charlie Parker vomissait après une trop grosse brosse, ben ça sonnait comme un chanteur de musique métal.
Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de lien. Le métal est peut-être la seule musique qui ne vienne pas pantoute du jazz, mais plutôt des forgerons, environ 4000 ans avant G.C.
G.C. John Coltrane?
Veux-tu bien me crisser patience avec ton jazz? On parle de vraie musique, cite, là, 4000 ans avant Jésus sur la croix.
Ben là, ça ferait 6000 ans que ça existe, la musique métal?
Tu sais, les chants grégoriens puis le celtique avec la sitar bizarre, ben y a rien là. Si tu veux vraiment parler de vieille musique, de musique que quand tu souffles dessus, y a un nuage de poussière qui soulève, là, ben tu parles de musique métal, la plus vieille musique du monde. Sauf que dans ce temps-là, c'était pas aussi populaire. C'était une musique plus underground, style dans des cavernes. Tu sais, les cheveux longs, la barbe puis l'air bête, ben ça vient de là.
Ah.
Le métal est devenu un peu plus populaire quand les hipsters médiévaux sont mis à en écouter et à porter des cotes de mailles avec le nom de leur groupe préféré dessus. Les premiers instruments qu'on peut vraiment associer au métal sont l'enclume, le pic, le feu ou le charbon ardent, puis le fameux marteau. On en écoute un extrait.
Ah, Ah ben ça ressemble quand même à un bruit de percussion, dans le fond, un peu comme Buddy Rich ou Guinadon.
Exactement. Évidemment, le genre a immensément évolué au cours des siècles, mais on peut toujours entendre l'inspiration de l'enclume ici et là dans la musique actuelle. Check!
Ah oui, hey, on l'entend bien là.
Le métal devenait de plus en plus populaire durant la Renaissance quand sont arrivés des smats qui ont voulu faire différent. Ça s'est mis à jouer sur des fourchettes, des escaliers en fer forgé, des Chevrolet Oldsmobile 1954, des tanks, un set de clés, mais tu sais, c'est pas pareil pantoute. We carry on, we carry on. Ce qui nous a sauvés de la déchéance la plus complète, c'est l'arrivée des mélanges. Ça, ça a changé l'univers musical du métal.
Ah, l'arrivée de la musique fusion, là, pareil comme en jazz.
Ouais, sauf qu'en métal, on appelle ça de la musique d'alliage. La fonte est au métal, ce que Smell Like Teen Spirit est au rock. Un coup de pelle d'acier dans la face de la musique, quin!
Alors, comme le jazz là, à l'époque du trio classique de Bill Evans, 1957-1959, avec sa tournée à Berlin, là, ben le métal était parti pour la gloire.
Ouais, pareil comme Bill Evans.
Ben oui, tu sais, 1957...
Pareil. Il y a aussi les années sombres du métal, quand les métaux précieux ont pris le dessus puis que la musique servait plus à shower son bling-bling qu'à véhiculer une idéologie. Parce qu'il faut toujours revenir à la base, la création, l'élément pur, comment forger la meilleure musique possible. Il y a un stade où la musique métal s'en allait nulle part. Tout ce que les artistes voulaient faire, c'était de l'argent.
Alors qu'on sait que les meilleurs instruments, comme le saxophone ou la trompette, sont en cuivre et non pas en argent. Mais le métal, est-ce que c'est un style de musique qui était facilement exportable? Est-ce que le métal, c'est une musique du monde?
Oui. On trouve littéralement du métal partout. C'est, comment dire, devenu réellement indispensable, le métal. Tout le monde aime ça, tout le monde en a chez eux. C'est un classique, le métal.
Ah, un classique comme Girl from Ipanema, quand on te met en attente au téléphone.
Pareil.
Alors, on pourrait dire en quelque sorte que le métal et Antonios Carlos Jobim, c'est la même chose.
Non. Parlons maintenant des classiques de la musique métal.
Il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs. Oh. D'abord, il y a le fameux duo Cuivre et Zinc avec leur chanson « Letton » qui a été un franc succès. Ils ont même séparé les recettes 50-50. Et aussi en vrac, Chrome des enfants de cœur de pirate, la discographie complète des Cowboys clinquants, Gilles Vigneault et Mon pays, ce n'est pas un pays.
C'est du fer! Ah oui.
Et Gilles Vigneault était aussi du spectacle de la Saint-Jean, mm-hmm. Une fois zinc.
Une fois zinc.
Il y a aussi Nickel Martin, Titan Murray, Madonna Aluminium, le Cobaltarium de Pierre Lapointe, Qu'est-ce que ça peut bien faire de Jean-Pierre Ferland, et bien sûr, Master of Puppets de Metallica. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le monde du métal, là, je suggère deux documentaires vraiment pertinents. D'abord, Iron Man avec Robert Downey Jr. et évidemment, La Dame de Fer qui est encore en salle.
Eh bien, merci Nadine.
Mais pas de trouble, Mathieu.
Tried one more once.
Cette semaine dans le Vox Pop, on parle de musique et de style heavy metal.
Moi, j'aime pas vraiment ce genre de musique-là. C'est pas mon style. Je trouve que ça crie trop, puis c'est agressif. J'aime pas.
Du heavy metal? C'est une bonne musique, ouais.
Heavy metal? Vient du bruit, tu comprends même pas les paroles.
Oui, je trouve ça de la violence. J'ai eu des voisins en haut, là, qui faisaient du rap, là. Puis ça, ça me jouait avec les nerfs. Ben, du heavy metal, je connais pas ça. Je suis trop vieille.
Non, mais ça reste quand même une musique sérieuse par rapport à ce que les gens pensent généralement, quoi.
Tu c'est une légende des punks, hein? Bah ouais.
Non, c'est plutôt des jeunes qui essaient de s'affirmer d'une façon différente.
Un être unique, un être sombre. Parce que la vie est un peu dure, donc faut réfléchir ça un peu. Oh, je suis heureux.
T'as-tu un chandail noir avec des têtes de mort dessus?
Ouais. J'en ai un.
Oui. Oui, il y a des gens qui ont peur de ça. Ouais, mettons les chandails têtes de mort. Moi, mes tantes, elles sont comme « Ah, pourquoi tu portes ça? C'est pas beau, ça. Tu représentes le Satan. »
Ben, moi, personnellement, j'aime pas. Ben, ça fait quelqu'un qui veut trop se faire remarquer. Moi, je trouve que rester sobre, c'est plus...
C'est par les couleurs, là. Les couleurs heavy metal sont plus dans les couleurs noires et rouges. Les studs, tatouages, boucles d'oreilles. Plus de piercing qu'une personne, entre guillemets, normale.
J'en écoute beaucoup. À l'apparence, j'ai pas l'air d'un gars de death metal, non. J'ai pas les bracelets avec les studs et tout le kit.
Bah, j'imagine que ça, quand t'es adolescent, t'as tout le temps quelque chose, t'as envie de te définir, tu te cherches beaucoup, t'sais, fait que j'imagine que c'est une forme de se rebeller quelque part à la société, quoi.
Pour moi, personnellement, ça m'intéresse pas. J'ai vu des gens porter des t-shirts, casquettes et même ceinturons, mais ça me dit rien, moi. Et ça fait peur aussi, hein. Parfois, les gens s'habillent tellement... En noir et puis tête de mort, ça fait peur, c'est effrayant.
Et puis ouais, c'est quand même une musique assez violente, fait qu'on aime ça.
T'es-tu violent?
Je suis pas vraiment, pas violent de nature, non.
Non, je suis pas méchant, mais si le monde a peur de moi, ça c'est pas mon problème.
Ben, c'est pas tout le monde. C'est des punks, hein. Et puis dans leur style de vie punk, c'est pas des gentils avec le monde. Ouais.
Les gars de death metal sont pas méchants.
Ils sont romantiques?
Ils sont romantiques et ils ont un gros cœur.
Ouais, avec ma blonde, quand même, ouais. Je suis un petit romantique. Ouais.
Allez leur parler et vous allez comprendre que c'est du bon monde.
Et tu peux vivre ça, moi, là je suis en 12 ans. Là.
Ah, je suis pas pour ça. Ils sont pas beaux.
Oh mon Dieu, que ça bégue comme nouvelle.
Ben, je trouve bien des gars qui ont l'air des filles, là. Un là, vous dirait des plates à gosse.
Je suis présentement dans un atelier de métal. Où est-ce qu'il y a trois artistes qui travaillent et beaucoup d'outils qu'on ne connaît pas. Enfin, je parle pour moi, puis je connais pas mal les outils. Alors, ouais. Vous écoutez dans le champ lexical. Et cette semaine, le mot c'est...
Ouais.
Métal.
André Drolet, un touche-à-tout qui, en ce moment, travaille beaucoup l'acier et l'aluminium.
Comment est-ce que vous avez, vous, personnellement, commencé dans le métal? Pourquoi?
Ah, concours de circonstances. Un de mes amis travaillait là-dedans, j'ai travaillé avec lui, puis j'ai eu la piqûre. Moi, ça a été... Puis j'ai bien aimé la mémoire de l'acier. Quand on plie l'acier, il garde une forme. Mais il y a une certaine mémoire. Il faut aller trop loin pour qu'il revienne lui-même au bon endroit. C'est ce qui m'a fait flasher, moi.
OK. OK. Bon.
Alors, je commencerai évidemment par pointer le casque.
Le casque de soudeur.
Alors, le casque de soudeur, ça, c'est un peu Darth Vader, là, on s'entend. Là. C'est, oh, il y a des pitons à l'intérieur d'un casque de soudeur.
Ben, il y a des, ça, c'est un casque électronique. On voit au travers. Et
qu'est-ce que vous voulez dire, on voit au travers?
On voit bien ce qui se passe.
Ouais.
Et quand on produit l'arc avec la soudeuse, il se noircit pour protéger la vision. Tandis que les anciens casques, on ne voyait rien du tout.
Vous faites affaire avec des scrappeurs?
On fait affaire avec un scrappeur. Il y a un scrappeur qui vient nous débarrasser. Il y a des gens qui vont revendre.
Est-ce que vous pouvez me raconter, c'est quoi un scrappeur?
C'est un récupérateur qui lui amène ça à la décharge. Et ils vont peser son camion à l'entrée. Ils vont peser son camion à la sortie. Ils vont savoir combien il est rentré de métal. Ce qu'on appelle le scrappeur, c'est tous les gens que tu vois en vieux pick-up ramassés dans les ruelles puis tout ça. C'est de ceux-là dont tu parles?
Moi, je m'imaginais des gens qui allaient dans la cour à scrap et qui ramassaient du métal. Je ne m'imaginais pas qui allaient dans les ruelles. Là,
ils vont dans les ruelles. Ils passent chez tous les gens comme moi qui fabriquent des choses en acier.
OK. Donc, les scrapeurs, ils vont vendre à qui?
Au recycleur de métal.
Et le recycleur de métal, par la suite, fait quoi avec ce métal-là? Il le coule? Il fait,
tu sais... Oui, eux autres, ils vont le trier.
Ouais.
Donc... séparer l'acier de l'aluminium, de l'acier inoxydable, du cuivre, tout ça. Et ça va être revendu, refondu.
Ça, c'est un baril à quoi?
À scrap.
À scrap, OK. Ah, vous allez scraper ça. Ça peut plus servir, ça.
Ça, c'est pas moi qui les ai achetés, ceux-là. Il y a des chances que je les récupère.
Ben oui. Des socles.
Tu veux toutes sortes de choses.
Ça, je comprends, là. Ça, c'est du tube encore. Ça, là, quand c'est plié de même, là, en rond, est-ce que ça peut se déplier?
Ça peut se déplier, mais que ça a une mémoire. C'est dur à ramener parfaitement droit comme c'était.
OK. Ça, fait qu'un morceau courbé ne sera jamais droit à nouveau.
S'il a vraiment été dans une courbe serrée, hein, le jeu en vaut pas la chandelle.
Vous pensez quoi de papaye, vous autres?
Papaye?
Non, c'est vrai, tu sais, papaye, il est là, il plie du métal comme un bon.
Papa, il pliait du métal. Il pliait une barre ronde. Ouais.
Mais ouais.
Mais il faisait pas des choses jolies.
Ça, tu vas aimer ça.
C'est quoi tous ces cossins-là?
Ça, c'est une machine pour faire des trous acmés.
Des trous à quoi?
Acmés. Dans Bugs Bunny, hein?
Ouais.
Dans le Roadrunner, là.
Ouais.
Il commande toute la compagnie Acme. A-C-M-E. Puis il y avait des trous. C'est comme une feuille de caoutchouc qu'il lançait. Quand quelqu'un les poursuivait, puis l'autre qui courait en arrière, il tombait dedans.
Ça n'existe pas pour vrai.
Non. Ça fonctionne par pression.
Mais là, il faut pas que je mette ma face devant, là.
Non, il n'y a pas de danger.
Ah! Ben non, que ça a fait un trou de même! C'est quoi ça? 2
cm? Ça, c'est ouais, un quart de pouce, c'est. Non, c'est moins. C'est un peu moins d'un centimètre.
Ça a fait un trou, là, comme si c'était dans une feuille de papier.
Tout à fait.
Wow!
J'attends ton cœur qui n'est plus jamais là.
et sans que tu te rendes compte, tu finirais peut-être par rester.
Pour avoir réussi l'impensable, c'est-à-dire faire rimer le mot « honte » avec « fonte », le chanteur Jonathan Pinchot mérite sûrement une médaille gossée dans un métal précieux comme l'or ou l'argent. C'est ce qu'on entend dans sa chanson « Pousse-pousse » où il est question d'un certain Jean et d'une certaine Anne qui, pour oublier leur quotidien de vendeurs de drogue et de femmes larguées, pousse-pousse-pousse de lourdes machines en métal dans un centre de conditionnement physique.
Jean est un homme jovial qui raconte des blagues en lisant le journal. Et bien que d'apparence assez loin d'exemplaires, il n'épargne personne de ses commentaires. Mais certains soirs il se demande à quoi ça rime, et certains soirs on le voit seul au fond du gym. Alors il pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte. Alors il pousse, pousse.
En 1966, Pierre Chagala-Lalonde raconte que tout finit par se briser et se détruire un jour, comme le fer, le marbre et l'acier du titre de la chanson. Enfin, presque tout, sauf notre amour.
Nous vivons dans un vieux quartier, dan, 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 qui bientôt sera transformé, dan, 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 dan. Le fer, le marbre et l'acier, tout finit par se briser. Tout peut se détruire un jour, mais pas notre amour.
Normand Brathwaite et la formation Soupir versent des larmes de métal dans le tube du même nom du début des années 80. C'est une alarme, c'est un signal pour signifier à la fille qu'il aime, qu'il a le cœur brisé et que tout ce qu'il veut au fond, ben c'est des explications sur son départ précipité.
Je t'aime, je t'aime, c'est toi que j'aime. Pourquoi, pourquoi as-tu fait ça? Es-tu, es-tu? Je n'en peux plus, je n'en peux plus.
Le Belge Plastic Bertrand serait-il constitué d'autre chose que de plastique? Oui, à en croire sa chanson « Cœur d'acier » enregistrée en 1981. Mais si on ne l'a jamais vu pleurer et qu'il n'a pas d'amis, c'est à cause d'une fille qui lui a fait de la grosse peine. Décidément un thème récurrent, n'est-ce pas?
On m'appelle Cœur d'acier. On m'appelle Cœur d'acier. On m'appelle Cœur d'acier. Cœur d'acier.
Pour la minute Cité Rock ma tante du jour, et on s'en excuse d'avance, gna gna gna, impossible de ne pas penser à « Tout l'or des hommes » de notre Céline Dion nationale. « Un métal précieux qui ne vaut juste plus rien si tu es loin de moi », nous chante la sirène de Charlemagne dans cette chanson composée par Jean-Jacques Goldman. Dans le champ lexical s'attarde aujourd'hui plus particulièrement à la chanson « Fer et titane » chantée par la Française Catherine Sauvage ou de son vrai nom, Jeannine Marcel Saunier. Au départ, il s'agit d'une pièce écrite par Gilles Vigneault en 1961, mais que cette chanteuse et actrice décédée en 1998 a reprise quelques années plus tard. Dans cette chanson, il est question de la course au développement des villes un peu partout dans le Québec des années 60. Et il n'y a pas une minute à perdre. Comme le disent les paroles, de Knob Lake jusqu'aux Sept-Îles, on a un travail à finir et la promesse du plus brillant avenir. Alors on fait venir 20 bateaux de 100 000 tonnes qui contiennent 20 000 hommes de tous les pays pour construire des chemins de fer et des barrages. Bref, des gens qui sont là pour creuser, couper, casser, miner, tracer et passer. Mais malheureusement, seul le progrès a raison et un prix. Comme le chante Catherine Sauvage, on prend pas le temps de sauver les sapins, puis des animaux vont périr. Que voulez-vous, hein? On n'a plus le temps de s'attendrir.
Fer et titane, sous les savanes, du nickel, du cuivre, et tout ce qui doit suivre, capital et métal, les milliards et les parts. Nous avons la jeunesse et les bras pour bâtir, nous avons le temps presse, un travail à finir. Nous avons la promesse du plus brillant avenir. 20 bateaux de 100 000 tonnes qui arrivent, qui sont partis, ont débarqué 20 000 hommes sur 10 quais qu'on a bâtis. Des machines, des outils qui viennent de tous les pays. Sa rivière a détourné, les barrages sont commencés. Les chemins de fer de 300 000, de Knob Lake jusqu'à cette île, corroyeurs et hauts fourneaux, dynamite et dynamo. Faut miner, tracer, passer. Faut creuser, couper, casser. Fer et titane, sous les savanes, du nickel, du cuivre, et tout ce qui doit suivre, capital et métal, les milliards et les parts. Nous avons la jeunesse et les bras pour bâtir, nous avons le temps presse, un travail à finir. Nous avons la promesse du plus brillant avenir. Pas le temps de sauver les sapins, les tracteurs vont passer demain, des animaux vont périr, on n'a plus le temps de s'attendrir. L'avion, le train, l'auto, les collèges, les hôpitaux et de nouvelles maisons, le progrès c'est la raison. À la place d'un village, une ville et sa banlieue, 10 religions, 20 langages, les petits vieux silencieux. Puis regarde-moi bien dans les yeux, tout ce monde à rendre heureux. Fer et titane, sous les savanes, du nickel, du cuivre, et tout ce qui doit suivre, capital, métal, les milliards et les parts. Nous avons la jeunesse et les bras pour bâtir, nous avons le temps presse, un travail à finir. Nous avons la promesse du plus brillant avenir.
Bonjour, ici Sonny Duval. Cette semaine, j'observe attentivement deux jeunes métaux vêtus de blousons de cuir. Je suis caché dans un véhicule immobilisé au coin Chérier et Saint-Christophe. Et les deux jeunes sont devant l'agora de la danse. Ils portent des blousons de cuir noirs, bien sûr, avec des clous. Oh! L'un d'eux vient de sortir une canette de peinture. Non, ce n'est pas une canette de peinture, c'est une canette de bière. Oh, je crois qu'ils viennent de me voir. Non, c'est bon. J'ai puis présentement deux jeunes métaux. Oh, je crois qu'ils viennent vers moi. Oh, non, ils ne viennent pas vers moi. Ouf, ici Sonny Duval. En très bon état devant l'Agora de la danse.
Si certains métaux sont bénéfiques à la santé en petite quantité, ce n'est pas le cas du plomb qui est toxique à l'humain, peu importe sa concentration. En français, on a donné le nom de saturnisme à l'intoxication au plomb parce que la planète Saturne était le symbole du plomb en alchimie. Ces conséquences, parfois réversibles mais le plus souvent chroniques et même fatales, vont de l'anémie aux troubles neuromoteurs en passant par la stérilité, le cancer et j'en passe. Reconnue comme une maladie professionnelle depuis 1919, le saturnisme a touché de nombreuses professions. On pense d'abord à la plomberie, dont le sens premier est l'art de fondre et de travailler le plomb. L'usage de peintures contenant du plomb a aussi valu au saturnisme le romantique surnom de « maladie des peintres ». Certains pensent d'ailleurs que le Caravage et Vincent Van Gogh en auraient été victimes. Alors imaginez que votre travail consiste non seulement à faire fondre du plomb toute la journée, mais en plus à y ajouter un certain pourcentage d'arsenic et d'antimoine, deux produits qui ne sont pas exactement des vitamines. C'était le cas des ouvriers qui travaillaient au sommet des tours qui servaient à fabriquer de la grenaille de plomb destinée à la confection des munitions. Pourquoi utiliser des tours pour fabriquer de la grenaille de plomb? Ça, c'est une idée d'un plombier britannique, plus précisément de Bristol, qui fit breveter son invention en 1782. William Watts avait remarqué que la pluie qui nous tombe sur la tête a une forme sphérique. C'est sa chute sur une grande distance qui fait perdre à la goutte la forme elliptique qu'elle a à la sortie du nuage et que les enfants reproduisent lorsqu'ils dessinent la pluie. Bref, M. Watts a ajouté quelques étages à sa maison et a inventé la première tour à plomb de l'histoire. Voici comment ça marche. En haut de la tour, on fait fondre le plomb qui est versé à travers une grille pour former des gouttelettes. Durant sa chute, la goutte devient ronde et commence à refroidir. Elle termine sa chute dans une citerne d'eau froide à la base de la tour. On trouvait de telles tours en France, en Angleterre, aux États-Unis, et nous en avions une ici à Montréal. D'ailleurs, elle est toujours là, dans la petite Bourgogne, régnant du haut de ses 50 mètres sur les résidences qui ont remplacé les anciennes installations de la Stelco. C'est justement de cette tour dont il est question dans la chanson « Shot Tower » de la formation montréalaise United Steelworkers of Montreal. On y découvre au fil des couplets l'histoire de ces hommes qui ont choisi de travailler en haut de la tour, même s'ils savent que la maladie, et éventuellement la mort, en sera le prix. Pourquoi? Parce que c'est plus payant qu'en bas, parce que ce revenu supplémentaire fera d'eux des héros dans leur famille.
I've been working on a watchtower, been holding up that molten lead with my fingernails and bleeding gums for me. I've lost my hair and I've lost it all, watching those lead drops fall for bigger paychecks and gloomy stares, you see. 12 toxic years in this pump and grind, it's 75 feet I leave behind, cursing dreams and letting I am dead. If it wasn't me, it'd be my son. If it wasn't him, it'd be someone.
I'll climb stairs, I'll take the risk to get that little bit more of the pay. 75 plus 6 feet high, people ask, I'll tell them why. You'll do a job that'll only bring you down. Brother was a constable, the other son, he was priest. My sister was conscripted for the nurse. No churches, halls, or hospitals, no Bible badges, badges blue. I'll do my work and I will be a saint. Been working on a watchtower, been hauling up that molten lead, his fingernails and bleeding gums to me. Let's dance with the angels of death on this earth. Let's dance with the boss who said it had worked. Let's drink to the poet that we all left behind. Let's raise another bucket of death of the vertical.
outside, smoked out on the token too from the greasy point you see. Center Street, there's a hot dog stand. Know some guys who got a plan. Who for a line and fly high for me. They can clean up all that mess. They can pay, make that the best. They knew his blood would only last 10 years. His seaways freight, we'll make it right. We'll move it all to Toronto side. No sovereignty or one for you this year. Now the tower is all dark and cold. Water ladders rusty and old. Though B-05 will raise it to the ground. Still says soil filled with lead, and all the work and the workers are dead. Just broken schemes and broken dreams and lead. Let's dance with the angel of death on this earth. Let's dance with the boss who said it had worth. Let's drink to the boys that we all left behind. Let's raise another bucket of death up to vertical line. Let's dance. Montreal, I've never seen those lead drops fall, but it's blue fingernails and bleeding gums for me.
Pourquoi ne peut-on pas mettre des choses en métal au four à micro-ondes? Eh bien, c'est une question de micro-ondes, parce que ça provoque un champ magnétique qui excite les molécules d'eau, ce qui fonctionne très bien pour la nourriture. Mais ce champ-là, contrairement à dans le champ lexical, n'est pas un grand chum du métal et en profite pour lui brasser les électrons, ce qui peut faire jaillir des décharges électriques sous forme de feux d'artifice. Dans le champ lexical, désire remercier particulièrement Yannick Marcil, l'économiste, qui nous a prêté sa personne et sa voix pour nous raconter le métal. Pour suivre ses réflexions et analyses, lisez Yannick Marcil à yannickmarcil.com, I-A-N-I-K. Marcel. C'est tout pour Dans le champ lexical cette semaine. Restez sur les ondes de CIBL, car suit dans un instant, le DJ est une ordure.
Champ lexical est une émission de Joanie Larue et Mathieu Charlebois. À la recherche et au micro, Christiane Campagna. Aux chansons thématiques, Pierre Duchesneau. À la chronique humoristique, Nadine Mathurin. À la chanson originale, Sonny Duval. Et au vox pop, Annie Rossano. Revenez-nous la semaine prochaine alors que nous parlerons du mot « larme ». Mais hey, attends! Métal cette semaine? Larme la semaine prochaine? C'est une alarme? C'est un signal?
Je verse des larmes pour métal.